Chapitre 7. Un retour peu glorieux. « À quelle heure part ton train demain ?» me demanda Stéphane dès qu'Yvette Monnier fut partie. « À 11h12, mais je crois que tu ne manques pas d'occupation demain. Tu n'es pas obligé de te déranger, je peux prendre un bus pour y aller seul. » Dans mes occupations de demain, il est prévu que je t'emmène à la gare. Personne ne m'attend demain soir à la maison, je bosserai un peu plus tard, c'est tout. » Le lendemain, Stéphane m'emmena donc prendre mon train avec la camionnette du chantier. En arrivant sur la place, je vis Thibault debout devant l'entrée de la gare. Il m'attendait et avait l'air d'être seul. Stéphane se gara comme il put et nous rejoignîmes Thibault. Il n'avait pas l'air en grande forme. Je l'embrassai et lui présentai Stéphane. « Et ta copine Victoire ?» Thibault baissa la tête mais répondit tout de même à ma question. Elle s'est tirée au bout de 2 jours. Ce qu'elle voulait, c'était sortir, aller au resto, se faire offrir des fringues. Quand elle m'a eu piqué tout mon fric, elle s'est tirée sans même me dire au revoir. Sympa, les vacances. J'appréciais la franchise de Thibault et ne pus m'empêcher d'avoir pitié de lui. Je l'embrassai et je lui dis « La prochaine fois, tu t'en trouveras une mieux et ce sera pas bien difficile. Tu me la présenteras d'abord et je te donnerai mon avis. » Parce que franchement, celle-là, elle puait le mépris à 10 mètres à la ronde. Elle était mignonne. Ouais, mais vulgaire, franchement vulgaire. Non, il te faudrait quelqu'un... Dans ton genre ? Oui, c'est ça, exactement, répondit Jean Rion. Thibault leva les yeux sur Stéphane et me dit « Et toi, tu n'as pas perdu ton temps à ce que je vois ?» Stéphane a été super sympa, c'est lui qui m'a sorti de la merde dans laquelle tu m'avais laissé. Thibault baissa les yeux. C'était peut-être un peu sec, mais j'avais ça sur le cœur depuis longtemps. Voilà, c'était dit, on pouvait passer à autre chose. Si vous avez un train à prendre, il faudrait peut-être vous bouger, déclara Stéphane. Effectivement, nous n'étions pas arrivés sur le quai que le train fut annoncé. Il vint se ranger devant nous et s'immobilisa. Stéphane me regarda et je vis l'émotion briller dans ses yeux. Il s'approcha et me serra très fort dans ses bras en m'embrassant avec application sur chacune de mes joues. « J'espère te revoir bientôt, » me dit-il. « Moi aussi, » dis-je en l'embrassant à mon tour. Thibault et Stéphane se serrèrent la main et nous montâmes dans le train pour trouver nos places. Une fois partis, après quelques minutes de silence, comme pour laisser au train le temps de prendre de la vitesse, Thibault me déclara « Il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on est censé avoir fait cette semaine. Tu connais maman, elle posera des questions, elle voudra tout savoir. » Je ne répondis pas tout de suite, je réfléchissais car la proposition de Thibault ne me convenait pas. Je finis par dire « Justement, à force d'entendre des réponses sorties tout droit de nos imaginations, elle va forcément se douter de quelque chose. » « Non, si on prépare bien notre histoire. » On a tout le voyage pour la mettre au point. Écoute, Thibault, je ne suis pas d'accord. D'abord, maman va forcément relever des incohérences dans nos histoires. On ne peut pas imaginer tous les détails d'une semaine de vacances en une après-midi de train. D'autre part, j'ai bien l'intention de retourner à hier poursuivre mon enquête cet été. Et revoir Stéphane. Oui, et revoir Stéphane. Si les parents sentent qu'il s'est passé quelque chose de louche, ce sera Niette. En plus, j'ai besoin de l'avis de papa pour mes recherches. Si je dois lui servir un mélange de vécu et de fiction, je ne vais jamais m'en sortir et il s'en rendra compte tout de suite. Dans cette histoire, la vérité est déjà loin d'être simple. Je n'imagine pas pouvoir supprimer des passages réels pour les remplacer par des imaginaires. C'est au-delà de mes capacités. Thibault faisait une drôle de tête.
Tu veux qu'on dise ce qui s'est vraiment passé ?
Ben oui. C'est le plus simple, non ? Alors tu veux me faire passer pour un imbécile aux yeux des parents ? Mais non, moi je ne veux rien. C'est à toi de leur avouer que tu as fait une bêtise, que tu t'es fait avoir. De quoi je vais avoir l'air ? Thibault commençait à m'agacer avec ses scrupules. Tu auras l'air de ce que tu es, une andouille qui s'est fait monter la tête par une pétasse, mais qui en tire les leçons et décide qu'il ne se fera plus piéger. C'est vrai ? Mais je ne suis pas obligée de le crier sur tous les toits. Qui te parle de le crier sur tous les toits ? Dis la vérité aux parents et invente ce que tu veux pour tes copains.
Tu es gentille, Mais comment je vais leur dire ça aux parents ?
C'est tout simple. On va arriver tard, les jumeaux seront sans doute couchés ou sur le point de l'être. Dis tout de suite aux parents que tu veux leur parler seul à seul. Tu craches le morceau, ce sera un mauvais moment à passer, après ça ira mieux. Au moins, en avouant tout, tu garderas leur confiance. S'ils se rendent compte que tu leur racontes des coups, ils se demanderont ce qui s'est vraiment passé et il restera toujours en malaise entre vous. Thibault ne me répondit rien. Il devait imaginer la scène dans sa tête et cela le rendait plus que songeur. Il resta songeur pendant tout le voyage et je me plongeai dans un roman trouvé chez Stéphane. À l'arrivée, papa nous attendait sur le quai. Il nous embrassa joyeusement et se montra heureux de nous retrouver. Pourtant, une fois dans la voiture, il changea de ton et nous fit de vifs reproches. « Dites, les enfants, vous auriez pu donner un peu de vos nouvelles. Une lettre, une carte, un coup de téléphone. Mais rien. On n'avait aucune possibilité de vous joindre, on ne savait même pas si vous étiez encore vivant et si vous seriez dans le train ce soir. » J'étais assise derrière papa et, sachant qu'il ne pouvait pas me voir, je fis signe à Thibault que c'était à lui de répondre à ce genre de questions. À qui la faute si on n'avait pas pu donner de nouvelles ? Il bredouilla une vague explication qui ne convainquit personne, surtout pas un inspecteur de police. Mais papa ne releva pas, préférant remettre les explications délicates à plus tard. Agnès et Rémi, tout excités par notre retour, refusaient de se coucher avant de nous avoir embrassés. Maman ne savait plus comment les tenir. Dès qu'elle nous vit, Agnès se fit le relais des parents en nous demandant pourquoi nous n'avions pas envoyé de carte postale. Une fois rassasiés de bisous, rassurés sur notre sort, ils allèrent se glisser sous leurs couettes et on ne les entendit plus. J'aperçus Thibault qui parlait tout bas à l'oreille de papa. J'en conclus qu'il avait décidé de se confier et j'annonçai que je montais dans ma chambre, posais mon sac et embrassais Freddy, mon ours en peluche préféré. Je pris tout mon temps et laissai passer une bonne demi-heure avant de redescendre. Je tendis l'oreille avant d'ouvrir la porte de la salle. Thibault parlait d'une voix à peine audible. Alors je remontai dans ma chambre et m'occupai à faire du feu dans mon poêle. Il y avait à peine 8 degrés dans ma tour, un bon feu ne ferait pas de mal. Maman m'appela un peu plus tard, je descendis. Ils étaient encore tous les trois dans le coin salon. Je pensais que tout était dit et qu'on m'appelait pour passer à table. Mais ils n'avaient pas bougé de place et mon père me fit signe de venir les rejoindre. J'allais donc m'asseoir à côté de Thibault, sur la banquette des accusés. Thibault nous a raconté ce qui lui était arrivé. Il a eu raison de tout nous dire. Mais cela ne te blanchit pas pour autant. Tu t'es retrouvé seul, dans un pays où tu ne connaissais personne, pratiquement sans argent, et il ne t'est pas venu à l'idée de nous téléphoner. Qu'est-ce que tu attendais pour nous prévenir ? De mourir de faim sur le trottoir ou de te faire enlever par le premier obsédé qui passerait par là ? Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir ma part de l'engueulade paternelle. Dans mon esprit, tout était de la faute de Thibault, et moi je n'étais que la pauvre petite victime. Je tâchais tout de même de me défendre. J'ai failli le faire, mais c'était impossible sans dénoncer Thibault, et ça, ce n'est pas mon genre. Alors ton genre a été de courir les rues comme une vagabonde. Ça n'a pas duré longtemps. Dès le premier soir, j'ai trouvé refuge dans un chantier naval. Et tu dormais comme ça sous les bateaux en attendant que les ouvriers te réveillent en arrivant au travail ? Seulement la première nuit. Ensuite, je dormais sur un canapé dans le bureau. Il n'y avait qu'un seul ouvrier et il venait me réveiller en m'apportant le petit-déj. Et tu sais qui est cet ouvrier qui s'est entiché de toi ? Maman, qui n'avait encore rien dit, crut bon d'ajouter sa réflexion personnelle. Mon Dieu, pourquoi les enfants grandissent-ils si vite ? On les aime, on les dorlote, on leur donne une bonne éducation. En les voyant grandir, on a l'impression qu'ils deviennent à peu près sages et obéissants. Et puis tout à coup, à 17 ou 18 ans, ils s'échappent de la maison et sans rien dire, s'acoquinent avec la première diablesse ou le premier marin qui passe. Tout à coup, je sentis une bouffée de chaleur m'envahir. Je trouvais que les parents y allaient un peu fort. D'abord, je n'étais plus tout à fait une petite gamine à qui on dit « ça c'est bien, ça c'est mal ». Ensuite, je refusais de laisser comparer Stéphane au premier marin qui passe. Aussi, je me levais et m'exclamais.
Écoute, maman, d'abord, tu ne nous as jamais appris à moucharder. Tu nous as toujours dit que c'était mal. Ensuite, tu nous as appris qu'il fallait savoir se débrouiller dans la vie. Je ne me trompe pas ? Alors je ne vois pas pourquoi vous me reprochez de l'avoir fait. Ensuite, Stéphane est loin d'être le premier marin qui passe. C'est un garçon super qui n'a pas eu les mêmes chances que nous dans la vie. Pourtant, il travaille et s'occupe de faire tourner l'entreprise de son patron qui est à l'hôpital. Il a fait tout ce qu'il a pu pour m'héberger et pour m'aider, et jamais il ne m'a manqué de respect. Et laissant les parents suffoqués par la violence de ma déclaration, je sortis, claquai la porte et montai dans ma chambre. 10 minutes plus tard, je m'occupais en tisonnant mon feu tout en ruminant contre ce monde injuste dans lequel j'étais tombé quand on frappa à ma porte. « Non !» répondis-je sèchement. Mais la porte s'ouvrit tout de même et Thibault entra, referma derrière lui et vint s'asseoir sur mon lit. « Je viens te demander pardon, Emmanuel. Tout est de ma faute. » Un temps de silence s'installa. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Mais alors, pourquoi les parents s'en prenaient-ils à moi ? Thibault reprit. « Il faut les comprendre, les parents. Ils ont eu peur, surtout pour toi. » « Pourquoi surtout pour moi ?»« Parce que tu es une fille. »« Et alors ?»« Et alors, depuis toujours, les mamans ont plus peur pour leurs filles que pour leurs garçons. Tu auras beau dire, tu n'y changeras rien et tu feras pareil quand ce sera ton tour. » Je ne répondis toujours rien, mais je sentis ma colère se calmer. « Si tu voulais descendre manger, je crois que l'incident est clos. Ce serait bien de faire la paix en famille. »« Ah, parce que ce sont les parents qui t'envoient ?» Et non, même pas. Je suis venue parce que c'était à moi de venir. Je refermai la porte de mon poêle. Je n'avais pas cessé de brasser mon feu pendant la conversation. Je me relevai et souris timidement à mon frère. Je m'approchai de lui et nous nous embrassâmes. « Allez, viens !» me dit-il. Je le suivis dans l'escalier. Sur le palier, à l'étage en dessous, il se retourna vers moi et me dit « Dis donc, si moi je me suis fait bêtement avoir avec Victoire, toi, tu as l'air au mieux avec Stéphane, vu comme tu l'as défendu tout à l'heure. Dis, Thibault, je croyais que tu venais me proposer la paix. Pardon, pardon, je me tais. C'est juré, je ne te parlerai plus de son Stéphane. En bas, les parents m'accueillirent avec le sourire et vinrent m'embrasser. L'orage était passé. Tout en mangeant, je racontai succinctement ma semaine en insistant sur la progression de mes recherches. Aucune question ou réflexion désagréable ne vint m'arrêter. Thibault, ensuite, nous raconta sa semaine avec, puis sans Victoire. Il fit de ses malheurs un récit plein d'humour qui nous fit bien rire. Je trouve géniaux les gens qui sont capables de prendre ainsi du recul sur leurs mésaventures et de les raconter ensuite comme si leur vie n'était qu'une succession de gags. C'était la première fois que Thibault nous montrait ce côté de sa personnalité. J'en fus ravi, car cela prouvait qu'il était d'une nature optimiste et qu'il n'était pas du genre à se renfermer sur ses problèmes. Le lendemain, l'affaire fut racontée dans les grandes lignes aux jumeaux, en leur expliquant qu'il s'agissait d'un secret de famille et qu'ils ne devaient pas en parler en dehors de nous six. Je repris les cours au lycée et m'empressai de raconter mes aventures à mes chères copines Amélie et Ursula. L'histoire était suffisamment aventureuse et romantique, elle les passionna. Une dizaine de jours plus tard, je reçus une lettre d'Yvette Monnier. Sur une première feuille, elle me donnait de ses nouvelles. Elle s'était installée chez sa sœur en Auvergne. Cette sœur, célibataire, travaillait la nuit comme infirmière et dormait le jour. Sa petite maison, située en bordure d'un hameau, était donc très calme. Yvette passait beaucoup de temps à marcher dans la campagne environnante. Elle avait écrit à ses enfants et commençait à se sentir mieux. « J'ai l'impression de reprendre goût à la vie », avait-elle écrit. Sur une deuxième feuille de papier, elle avait consigné tous les renseignements dont elle se souvenait sur Jean-Claude Martin. Il était de 5 ans plus âgé qu'Antoine. Il était fils unique et venait d'une famille de riches industriels du Nord. Il avait toujours été intelligent, inventif, entreprenant, persévérant, mais il avait toujours eu la passion de l'argent et Dieu seul sait jusqu'où cette passion avait pu le mener. Après des études de gestion, il débuta au chantier naval de la Ciotat comme adjoint au directeur financier, puis comme directeur financier en titre quand son chef fut parti à la retraite. C'est là qu'il s'était rencontré avec Antoine. Et c'est à cette époque qu'il avait divorcé, malgré deux jeunes enfants. C'était dommage, il avait une jeune femme bien sympathique. Elle était très belle, mais venait d'un autre milieu. C'était un amour de jeunesse qu'il n'avait pas su faire durer. Depuis, il a vécu avec plusieurs femmes, mais ça n'a jamais tenu bien longtemps. Depuis le départ de la dernière, il y a environ 2 ans, il vit en célibataire endurci dans une grande maison qu'il a achetée sur la presqu'île de Gien. On ne sait comment il se débrouille pour vivre dans cette grosse bâtisse, car il n'y fait jamais entrer personne. Il n'a pas de femme de ménage et reçoit ses rares visites dans la pièce d'entrée qui sert à la fois de parloir, de salon et de bureau. Antoine y est entré 1 ou 2 fois. Jean-Claude possède aussi une sorte de yacht, un bateau à moteur équipé pour la pêche au gros. Il sort assez souvent en mer, de jour comme de nuit, quelquefois avec des filles, mais le plus souvent seul. À terre, il circule à bord d'une grosse Audi noire. Au travail, il n'est guère apprécié que par Antoine, qui reconnaît ses qualités de gestionnaire et son intuition de manager. Les autres employés le trouvent froid, distant, arrogant et même méprisant. Et enfin, dans la lettre d'Yvette Monnier, je trouvais un mandat de 500 euros comme participation pour tes frais, avait-elle écrit. Le soir même, je demandais une entrevue à mon père. Je lui fis lire la lettre avec les renseignements donnés par Yvette sur l'associé d'Antoine. Toujours aussi naïve, je croyais que papa allait s'empresser de déclencher une enquête approfondie sur le fameux Jean-Claude Martin, peut-être même allait-il mettre Jean-Claude Martin en garde à vue et faire fouiller sa maison et son bateau. Mais non, rien de tout ça. Il prit le temps de réfléchir, puis m'annonça tranquillement qu'il en dirait 2 mots à son chef, mais qu'il avait besoin d'une demande écrite de Madame Monnier, lui réclamant officiellement de rechercher son mari. « De toute façon, je reste sur mon idée première, » conclut-il. « Il est très difficile de retrouver la trace d'un clochard qui disparaît, volontairement ou non. » Une fois de plus, je fus déçu par le manque de réactivité de la police en général et de mon père en particulier. Je répondis tout de même à Yvette de se mettre en rapport direct avec mon père et je lui indiquai ses coordonnées professionnelles. 3 semaines passèrent. Je commençais à passer beaucoup de temps sur mes révisions. Je n'avais pas vraiment peur d'échouer au bac, j'étais bonne élève et j'avais quelques facilités, à part pour les maths, mais je tenais à décrocher une mention et surtout ces heures de révision étaient un excellent exutoire pour le stress qui allait grandissant jusqu'au jour de l'examen. J'avançais l'heure de mon réveil et bûchais 1 heure avant de descendre prendre mon petit déjeuner et filer au lycée. De même, le soir, je consacrais 1 heure avant le dîner et 1 autre heure juste après à reprendre et à résumer le programme matière par matière et chapitre par chapitre. L'affaire Antoine Monnier était passée au second plan. Je ne l'avais pas oubliée, mais je pensais, malgré les réticences de mon père, qu'elle était maintenant entre de bonnes mains. Je reçus une seconde lettre d'Yvette. Elle était toujours chez sa sœur en Auvergne, mais son moral était peu à peu retombé. Elle avait pu rencontrer mon père et il avait dû déclencher les recherches, mais elle n'en avait aucune nouvelle. Peut-être pourrais-je lui en donner. Il était clair qu'elle n'allait pas bien et que sa lettre était une sorte d'appel au secours. Elle avait confiance en moi et cherchait du réconfort en se raccrochant à moi. Avec cette lettre, je me retrouvais brusquement au cœur de l'affaire Antoine Monnier, alors que je l'avais mise de côté et que j'essayais de ne plus y penser. En parlant d'oubli, je me rendis compte que je n'avais aucune nouvelle de Stéphane. N'avait-il pas dit qu'il l'écrirait ? Il est vrai que moi, je ne lui avais écrit qu'une fois pour lui raconter notre retour à la maison et lui dire que j'avais bien l'intention de le revoir. Aucune réponse n'était venue. Le soir même, à la fin du dîner, je demandai des explications à mon père. Pourquoi Yvette Monnier n'est-elle pas tenue au courant de l'avancement de l'enquête ? Papa, qui était rentré tard et fatigué, me fit signe de le suivre sur la banquette du salon. Tout d'abord, me dit-il, je n'ai aucun compte à te rendre sur l'avancement de mon travail, surtout concernant des personnes étrangères à la famille. Pourtant, je veux tenir compte du fait que c'est toi qui es à l'origine de cette enquête et que tu as le privilège d'être ma fille. Je vais donc, à titre tout à fait exceptionnel, te dire succinctement où nous en sommes. Madame Monnier n'aura de nouvelles officielles que lorsque l'enquête aboutira ou lorsque nous aurons une piste sérieuse. Or, ce n'est pas le cas. nous avons fait des recherches avec les moyens dont nous disposions. Premièrement, nous n'avons retrouvé aucune trace d'Antoine depuis qu'il est parti d'ici, et deuxièmement, nous avons surveillé et interrogé son associé, Jean-Claude Martin, que Madame Monnier semblait accuser, mais nous n'avons rien relevé de suspect, ni dans sa vie, ni dans ses déclarations. Je dois t'avouer que, faute de pistes, l'enquête vient d'être suspendue jusqu'à ce que surviennent des éléments nouveaux. J'ai demandé à ce qu'elle soit poursuivie encore un peu, mais je n'ai pas eu gain de cause. Tu sais, continua-t-il, si la demande officielle de sa femme a permis de déclencher des recherches pour Antoine Monnier, elle ne nous a fourni aucune piste. Un clochard peut se cacher n'importe où sans attirer l'attention. La preuve, le temps que nous avons mis à découvrir qu'Antoine habitait sous notre propre toit. Je remerciai papa aussi chaleureusement que je le pus, car je pensais bien qu'il avait fait tout son possible, mais j'étais atterré. Voilà donc la célèbre efficacité de la police, les professionnels de la recherche, les spécialistes avec leur flair légendaire et leur équipement technologique sophistiqué, les grands chasseurs de vérités enfouies à qui on ne peut rien cacher. Ils n'avaient rien trouvé. Ils avaient simplement refermé le dossier. Leur travail s'arrêtait là. J'avais une furieuse envie de foncer au commissariat pour les engueuler tous, leur dire qu'ils n'étaient que des incapables, qu'un homme avait été enlevé, qu'une femme souffrait et que se contentaient de refermer officiellement le dossier pour pouvoir penser à autre chose et berner leur propre conscience. Qu'allais-je répondre à Yvette ? Qu'elle allait devoir se débrouiller seule ou abandonner tout espoir parce que la police baissait les bras. Je ne pouvais pas lui faire une pareille torture. Je ne voulais pas non plus lui affirmer que son problème était dans de bonnes mains et qu'elle n'avait pas de soucis à se faire. J'aurais l'impression de trahir sa confiance. Ne sachant quel parti prendre, je pris la décision de ne rien faire pour l'instant et de remettre à plus tard la réponse à sa lettre. À partir de ce jour, j'eus beaucoup plus de mal à me concentrer sur mes révisions. Je ne pouvais m'empêcher de voir Yvette qui pleurait en me reprochant de ne rien faire. Mais que pouvais-je faire? Pour le moment, rien. Mais dès les épreuves du bac passé, il faudrait absolument que je trouve le moyen de retourner à Hyères et que je reprenne l'enquête sur place. Je suis sûre que tout part de là-bas. Probablement je ne trouverai rien, mais au moins je n'aurai rien à me reprocher, j'aurai tenté tout ce que je pouvais. 2 jours plus tard, j'eus un appel téléphonique de Stéphane. C'est ma petite sœur Agnès qui, ayant décroché le téléphone, était montée 4 à 4 jusqu'à ma chambre pour m'annoncer « Emmanuel, ton amoureux au téléphone !» Je n'ai pas réalisé tout de suite qu'elle parlait de Stéphane. Quand enfin j'ai compris, je suis descendue comme une flèche, surprise et émue à la pensée que j'allais pouvoir lui parler pendant quelques secondes. « Allô, Stéphane ?»« Oui, Emmanuel, c'est bien moi. » Je te demande pardon, je voulais répondre à ta lettre, mais je ne savais pas trop quoi écrire. L'écriture, ce n'est pas mon truc. J'avais commencé, mais je cherchais l'inspiration pour continuer, et ça ne venait pas. À force de repousser d'une semaine à l'autre, je n'ai rien fait. Je te demande pardon. Et tu m'appelles pour me demander pardon ? Non, je te demande pardon parce que j'avais peur que tu sois fâché. Mais je ne suis pas fâché. Qu'est-ce que tu deviens ? « Excuse-moi, mais j'appelle de l'atelier. J'attends un client qui doit passer. Je n'ai pas trop de temps. Je vais aller à l'essentiel. »« Ok, je t'écoute. »« Voilà, vendredi, je viens à Lyon pour la journée. Mais comme Lyon, ce n'est pas trop loin de chez toi, je pensais que peut-être on pourrait se voir, que tu voudrais bien me rejoindre. Vendredi soir et peut-être le samedi matin, avant que je reprenne le train. » Je réfléchis à toute vitesse dans ma tête. Comment faire un aller-retour à Lyon en ce moment où la moindre heure de libre est réservée d'avance pour mon programme de révision? Et comment obtenir une telle autorisation des parents? À Lyon, tu fais comment? Je veux dire, où dors-tu? Chez des amis? Je ne sais pas. Je verrai. Enfin, on verra. Si tu viens... Ouh là là! Le plan foireux! Impossible de proposer ça aux parents. C'est mon copain d'hier, j'arrête les révisions 24 heures, je le rejoins en stop à Lyon parce que je n'ai plus de sous pour le train. Ne vous inquiétez pas, on dormira sous les ponts. Écoute Stéphane, j'ai très envie de te voir. Ça je l'ai dit tout bas pour éviter qu'un tel aveu tombe dans les oreilles grandes ouvertes d'Agnès qui m'a suivi et qui débarrasse la table à 2 mètres de moi, en s'appliquant à faire le moins de bruit possible pour ne pas perdre un mot de la conversation. Écoute, Stéphane, est-ce qu'il ne serait pas plus simple que tu viennes passer le week-end à la maison ? Si tu as le temps, ça ne te fera pas faire un grand crochet, tu auras un lit pour dormir et moi je pourrai continuer à bosser mon bac. Tu es d'accord ? Bien sûr que je suis d'accord. Du moment que je suis au chantier lundi à 8 heures, mais tes parents ne seront peut-être pas ravis. Mes parents ne seront jamais d'accord pour me laisser partir seule à Lyon sans savoir où je vais coucher, mais je suis sûre qu'ils seront heureux de t'accueillir. La maison est grande et d'ailleurs tu connais déjà mon frère Thibault. Dis-moi, à quelle heure tu arrives, on viendra te chercher à la gare. Lorsque je raccrochais, j'entendis Agnès s'écrier. « Chic, 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 on va voir ton amoureux !»